Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
La communauté du Cénacolo a été fondée en 1983 en Italie, près de Turin, par une religieuse, sœur Elvira, en réponse au mal-être de nombreux jeunes perdus dans le monde des addictions et souvent marginalisés. Je vous propose aujourd'hui pour témoin Aymeric. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Vous avez 24 ans.
Oui.
Vous avez 24 ans et vous êtes entré dans cette communauté il y a 3 ans, à l'âge de 21 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours de vie pour faire, je dirais, un atterrissage dans cette communauté du Cénacolo ?
Alors, je suis rentré au Cénacolo surtout parce que mes parents voyaient chez moi des problèmes de drogue. Voilà, ça faisait 5 ans que je fumais du cannabis. Et que mes parents s'en rendaient compte. Ma mère m'en avait parlé pendant 2 ans et avant mes 21 ans, du coup, je traversais quand même 1 à 2 années assez compliquées où je me perdais beaucoup. Et après avoir insisté pendant 2 ans, du coup, j'ai fini par accepter de venir ici, de rentrer au Cénacolo, surtout sur le conseil de ma maman qui a beaucoup insisté.
Votre maman s'inquiétait pour vous ?
Oui. Oui, beaucoup. Elle a toujours eu une attention pour moi. Ça a parfois été un peu pesant et c'est ce qui m'a empêché beaucoup au début de rentrer. C'est de me sentir forcé, de me sentir poussé. Et puis de penser aussi que je pouvais m'en sortir, que j'avais pas besoin de son aide. Et j'ai compris que c'était pas son aide vraiment dont j'avais besoin, c'était la communauté parce qu'elle se sentait impuissante elle aussi.
Quels étaient un petit peu les symptômes que vous aviez pour qu'une maman soit aussi inquiète pour vous inviter à faire cette expérience et cette entrée dans cette communauté ?
Je me cachais beaucoup. Je mentais à mes parents. Je leur volais de plus en plus d'argent. Elles me disaient souvent que j'avais un rire qui n'était pas le mien. Voilà, c'est comme si je me créais un rire de circonstance, un genre de masque à sortir à toute occasion. Et elle le savait, elle me connaissait par cœur. Elle me connaît par cœur. Voilà, il y avait beaucoup de silence, beaucoup de secrets, beaucoup de gêne. Et puis ça se voyait aussi sur mon visage que j'étais triste, que j'avais changé, que j'étais plus le petit gamin solaire et rayonnant. Avec le grand sourire au milieu du visage, j'avais changé. Aujourd'hui, je regarde des photos de moi, j'ai aussi beaucoup changé, en bien et heureusement. Je porte un petit peu ma résurrection sur le visage, quoi.
Qu'est-ce qui se passe dans le parcours de ce petit garçon ?
Ce petit garçon, il a eu peur.
Il a eu peur de quoi ?
Il a eu peur de la relation de ses parents. Depuis que je suis tout petit... Je suis témoin de beaucoup de litiges à la maison, beaucoup de bagarres, j'ai pas envie de dire engueulades, mais voilà.
De guerre hein, entre
beaucoup
parents.
Voilà. Ouais. Beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de cris aussi. Et depuis que je suis tout petit, donc, j'ai peur. J'ai peur que mes parents se séparent, j'ai peur que leur couple explose et que moi et mes frères et sœurs qui sommes au milieu, on en subisse un petit peu, qu'on en paye le prix.
Et vos parents se sont séparés ?
Et mes parents se sont séparés. Mais j'ai toujours vécu ça dans le silence, si vous voulez. Le désir que mes parents restent ensemble, je leur en ai jamais parlé. J'en ai toujours eu peur qu'ils se séparent un jour, mais j'avais gardé ça pour moi. Comme une petite prière que j'adressais à Dieu, si vous voulez. Mais voilà, secrètement.
En fait, vous étiez un enfant, un adolescent qui gardait tout en lui.
Oui, qui a toujours eu peur de ses parents aussi.
Vous avez une réponse aujourd'hui sur cette peur que vous aviez de vos parents ?
J'allais pas vers mon père parce que je le savais très, très distant, très silencieux aussi, très, très introverti. Il travaillait beaucoup et je le voyais quasiment jamais. Seulement le week-end, et il passait ses journées à travailler dans le jardin, à passer la tondeuse ou à des trucs comme ça, et en silence.
Qu'est-ce qui vous a manqué ?
Ce qui m'a manqué, c'est un papa qui m'écoute, qui joue beaucoup avec moi. Et il y a quelques moments comme ça, des petites lumières que j'ai dans mes souvenirs d'enfance. Un anniversaire où il joue le dragon pour moi et tous mes copains qui sommes déguisés. Et puis j'avais adoré ça. Mais des souvenirs comme ça, j'en ai deux, trois.
Donc on entend un message. Hein. Donc là, cette émission qui s'adresse à tous les parents, donc ceux qui sont pères peut-être aujourd'hui, parents d'enfants ou d'adolescents, vous relevez aussi l'importance aussi, cette priorité de l'époux et du père de famille d'être à l'écoute de son enfant et puis de cet enfant qui devient adolescent. Oui. Ça, c'est la priorité peut-être. Qu'est-ce qui vous a manqué du côté de la mère?
Du côté de ma mère, du silence pour le coup. C'est du silence qui m'a manqué beaucoup.
Et vous souriez.
Oui. Oui, parce que ma mère a pris la place de mon père, comme mon père ne parlait pas beaucoup. C'est ma mère qui nous a éduqués, c'est ma mère qui nous a fait grandir, qui nous a dit les choses, qui nous voyait au quotidien, qui nous aidait pour les devoirs au début, même si mon père a mis sa part aussi. Et de sa part, j'avais besoin un peu de calme, de silence, de respect, de distance. Ça a été souvent assez intrusif. Voilà, c'est ce qui m'a éloigné aussi un peu de la religion. C'est Aymeric, viens prier. Aymeric, la messe le dimanche. Aymeric, le machin, le truc. Et ça, c'était maman surtout.
On entend bien aussi que votre père ne restait peut-être pas ou n'avait pas pris sa juste place. Et que votre mère, en l'occurrence, prenait une trop grande place.
Oui. Oui, ben
qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les pères de famille et toutes les mères de famille qui écoutent aujourd'hui des clés pour grandir avec, je dirais, votre propre expérience?
J'ai eu besoin d'écoute. J'ai eu besoin d'écoute. Moi, ce qui sauve ma relation aujourd'hui avec mon père, avec ma mère, c'est le dialogue. C'est le fait qu'on sache se parler, qu'on sache aussi prendre un moment de silence, de recul, et puis essayer de se donner les uns aux autres les choses dont on a besoin.
Alors ce dialogue et cette écoute que vous avez aujourd'hui, vous l'avez appris depuis que vous êtes en communauté?
Oui, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'on a, quand je suis arrivé, j'ai eu un moment de coupure, si vous voulez. Pendant 5 mois, je ne les ai pas vus. Alors au début, ça a été très dur, parce que j'avais jamais vraiment quitté la maison. 6 mois, mais j'étais encore complètement dépendant du compte en banque de papa. Mais en communauté, j'avais rien. Mes parents étaient vraiment pas là du tout. Et ça devenait un peu le refuge vers lequel moi, j'allais déjà en pensée quand j'allais pas bien. Petit à petit, j'ai appris à me détacher et puis à prendre un petit peu de recul vis-à-vis de cette relation avec eux. De me dire aussi qu'il allait falloir que je me prenne en main et que ma vie, elle se ferait sans eux maintenant. Qu'il allait falloir que j'apprenne à devenir un homme. Une fois sorti, j'allais travailler, j'allais payer mes impôts, j'allais machin. Et voilà, et ce recul, moi, ça m'a fait beaucoup de bien pour me regarder moi aussi un petit peu détaché d'eux et puis pour me mettre aussi un peu à leur place.
Vous venez d'employer le terme aussi « devenir un homme ». Pour vous, Aymeric, c'est quoi devenir un homme? Qu'est-ce que vous apprenez au Cénacolo?
Ouf, ça, c'est une question.
C'est vous qui l'amenez, cette question.
Devenir un homme, c'est vraiment apprendre à savoir qui je suis et en être fier, en être content. Même des choses qui sont chez moi, qui ne sont pas forcément très belles, pas forcément très dorées et que j'ai encore du mal à accepter, mais ça fait partie de moi. Et l'homme, pour moi, ce sera savoir être responsable, savoir être mature, être posé. Être à l'écoute et être aussi dans le don de moi sans m'oublier, mais sans non plus tout garder pour moi, sans garder tout ce que j'ai reçu, des dons, de savoir dessiner, de savoir chanter, de savoir faire de la guitare et tout. C'est des trucs que je garde pour moi qui me font du bien, qui me font plaisir, mais c'est savoir aussi le partager aux autres. Voilà. Et puis pouvoir aussi parler de ce que je vis, gérer un petit peu ce que je vis. Un homme tout seul, pour moi, hein, un homme tout seul qui est pas entouré par des frères ou qui est pas capable de parler de ce qu'il vit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombé, quoi. Je suis tombé. C'est comme ça que je suis allé vers la drogue, vers les machins. Bon.
Les filles.
Notamment. Oui.
La pornographie.
Tout à fait.
À l'âge de 10 ans.
Oui.
Vous êtes guéri aujourd'hui?
Non. Non, pas du tout.
En communauté, au Cénacolo, on apprend à être vrai.
Oui, oui.
Donc vous reconnaissez qu'aujourd'hui, vous avez encore besoin de continuer ce parcours de guérison.
Oui, et même une fois sorti du Cénacolo, il va falloir que je me confronte à nouveau à un téléphone, à un ordinateur. Et c'est des choses...
Que vous redoutez ?
Oui, bien sûr, que j'ai déjà redouté, dans lesquelles je suis déjà retombé, parce que j'ai eu l'occasion de retourner à la maison quelques fois. Mais à chaque fois, un peu moins. Et bien sûr, ça me fait peur. Et parce que chez moi, c'est des vieux automatismes. Et j'ai 24 ans, c'est des vieux automatismes. Mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui s'est ancré chez moi et qui est difficile à gérer, qui est difficile aussi pour moi de m'en détacher. Mais de le savoir, de sentir ma fragilité à ce niveau-là aussi, ça m'aide à me tourner un petit peu plus vers ce que je cherche de beau. Mon grand désir, c'est de me marier, c'est d'avoir des enfants. Et ça, je le sais depuis que j'ai 12 ans, quoi. Et c'est pareil. Et je m'y accroche. Et c'est ça aussi qui m'aide à dire non, à dire stop. J'ai des moments de difficulté, et puis j'ai parfois des images qui me reviennent en tête, et des envies, et des pulsions. Mais j'essaie d'apprendre à les gérer aussi comme ça, en me disant, c'est pas vers là que je veux aller. Je me suis dirigé vers là, en pensant que c'était la vérité. Maintenant, je sais que c'est un mensonge. Alors pourquoi est-ce que j'y vais ? Pourquoi est-ce que j'y retourne ? Parce que j'y ai un certain confort, parce que j'y ai un certain plaisir, mais c'est pas ça qui va me rendre heureux dans la vie.
Vous avez toutes les réponses, Aymeric ?
Oui, dans la tête.
Dans la tête, oui.
Maintenant, en pratique, c'est autre chose. Et tous les jours, c'est un combat.
Vous avez aussi des moyens aujourd'hui en communauté. Une journée à la communauté se passe comment au Cénacolo ?
Réveil 6 heures, chapelet en chapelle, puis petit déjeuner et on part sur le travail. Après le déjeuner, on a aussi un moment de partage avec un frère pendant 40-45 minutes pendant lequel on va pouvoir s'ouvrir, on va pouvoir parler de ce qu'on vit, de nos difficultés, demander de l'aide, savoir en donner aussi à un frère qui en demande. On retourne sur le travail. On a un chapelet dans l'après-midi. À la fin du travail, on en a un troisième. Et après, c'est douche, dîner, à nouveau un temps de partage, et puis un petit peu de temps libre avant d'aller se coucher.
Alors, qu'est-ce qu'on doit noter ? Que le Cénacolo, c'est travail, c'est prière, c'est temps de partage, c'est écoute aussi.
Oui, tout à fait. Voilà. Nous, c'est nos trois grands piliers, c'est travail, prière et amitié vraie.
Vous avez très peu de temps libre.
Oui. Et la plupart du temps, notre temps libre est aussi occupé par les choses dont on s'occupe.
Et pas d'écran, pour le coup.
Non, très peu. C'est-à-dire que ça arrive...
Ni ordinateur, ni téléphone, ni télévision.
Alors, personnel, non. Mais dans le bureau, il y a un ordinateur. Le responsable a un téléphone à 9 touches. On regarde une partie de foot de temps en temps. On regarde un film une fois toutes les 2-3 semaines. Mais ça s'arrête là.
Votre responsable qui est actuellement à vos côtés.
Tout à fait.
Qui vient de me montrer le téléphone. Oui.
Qui l'a brandi fièrement.
Oui, merci Jérémy. On vous retrouve la semaine prochaine, Jérémy. Oui. Aymeric, écoutez, merci pour cet échange du jour. On peut conseiller aussi peut-être à tous ceux qui sont parents, qui sont peut-être en questionnement par rapport à leurs enfants, grands-enfants aussi. Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact donc avec cette communauté du Cénacolo, voilà, qui saura bien vous renseigner aussi sur l'orientation qu'il faudrait peut-être. Aymeric ?
Moi, je voulais seulement rajouter une chose pour mes parents. Ce qui m'a aidé à rentrer en communauté, c'est la liberté qu'ils m'ont donnée. Ils m'ont mis devant un choix, c'était où je me débrouille, ou hôpital psychiatrique, ou Cénacolo. Et c'est moi qui l'ai choisi. Et il a fallu du temps, 2 ans, pour que je finisse par accepter cette solution. Mais c'est cette liberté, moi, qui m'a aidé à rentrer. Et puis, la persévérance de ma mère aussi.
Merci. Merci, Aymeric. Et pourquoi pas à une prochaine fois pour d'autres rendez-vous. Au revoir.
Au revoir.